Et bonjour, bienvenue dans cette émission autour de l'actualité mayonnaise, l'agité du local. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en compagnie d'Andy, qui n'est pas forcément avec moi en studio, mais ça ne nous empêche pas de faire une belle émission, vous allez l'entendre. Puisque au menu de cette émission, on va parler donc de la future antenne relais près du chemin de Halage à Ménil, un projet qui dérange les riverains et qui les incite à se mobiliser. On va parler aussi de ce nouveau spectacle de la compagnie Théatrium à Laval. Et Andy, peut-être que tu peux nous en dire deux mots. Déjà, bonjour.
Bonjour Marie.
Donc un nouveau spectacle qui propose... Ça va et toi, comment ça se passe? Et donc tu as rencontré le metteur en scène de la compagnie Théatrium à Laval qui propose un nouveau spectacle, c'est ça?
Eh oui, le spectacle se nomme Émile et Angèle Correspondance et il se déroulera le 11 et 12 janvier au Théâtre de Laval.
D'ici quelques jours, et donc vous allez entendre ce témoignage d'ici quelques minutes, soyez patients. On va aussi parler dans cette émission du quatrième épisode autour du SNU. C'est le dispositif qu'a suivi la fille de Nelly Courcelles et c'est son témoignage de maman qu'on vous propose d'écouter en fin d'émission. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité. Le projet de loi sur le pass vaccinal a été voté cette nuit à l'Assemblée nationale en première lecture. Après une séance levée vers 5h30 ce matin, le texte a été voté avec 214 voix pour, dont celle des trois députés mayennais, Guillaume Garot, Géraldine Bagnier et Yannick Favennec, et 93 voix contre. Le texte devrait arriver devant le Sénat ce lundi, avec une mise en œuvre sans doute entre mi-janvier et fin janvier. L'injonction au télétravail pointée du doigt par le MEDEF, l'organisation patronale présidée en Pays de la Loire par le Mayennais Samuel Tual, n'est pas opposée au télétravail, mais dit plutôt être pragmatique. Selon elle, 7 postes sur 10 ne permettent pas ce télétravail. Et quant aux amendes de 1 000 euros par salarié en cas d'infraction, c'est un affront pour les entrepreneurs qui sont responsables, selon le MEDEF Pays de la Loire. Eux ont été très touchés par le gel au printemps dernier. Les arboriculteurs et autres producteurs de fruits ont un mois pour demander des subventions jusqu'au 3 février prochain. Sont concernés ceux qui ont subi au moins 30% de pertes sur leur récolte l'an passé. La demande est à faire en ligne sur le site web de la préfecture de la Mayenne. Des vœux en fanfare, c'est le choix de la municipalité de Laval, alors même que plusieurs cérémonies en intérieur ont été annulées à cause de la situation sanitaire. Des déambulations musicales en extérieur seront donc assurées par des fanfares au départ de chaque maison de quartier avec des élus. Et ça commence dès demain à 17h au pavement et à 18h30 à Grenoux. Samedi, rendez-vous à 11h aux Fourches et à 15h à Hilard. Et il y en aura ensuite le week-end prochain. Atelier budgétaire citoyen de la ville de Laval, saison 2. Une quarantaine de citoyens volontaires y avaient participé l'an passé. Exercice renouvelé cette année les 13 janvier et 23 février prochains pour la préparation du budget 2022. Pour y participer, il suffit d'habiter à Laval, d'avoir au moins 16 ans et de s'inscrire par mail à atelier avec un s.citoyen@laval.fr. Vous avez jusqu'à ce lundi 10 janvier. 450 artistes attendus pour le tremplin musical du VNB Fest. Et le grand gagnant pourra se produire sur scène lors du festival du 26 au 28 août à Château-Gontier. Et dès le 17 janvier, les artistes pourront s'inscrire via la plateforme Smart Music Tour. Ensuite, tous les magasins VNB sélectionneront 3 artistes qui seront en concert chez eux du 31 mars au 2 avril. Et après différents votes, on connaîtra le grand gagnant, ce sera le 14 mai. Une antenne relais près du chemin de Halage à Ménil. Pas question pour les riverains qui veulent se constituer en collectif. Et parmi eux, Blandine Davout, avec sa voisine Thérèse Blot, elle est à l'origine de la mobilisation. Une étude est en cours depuis un an pour l'implantation d'une antenne téléphonique tout près de chez elle, à l'emplacement de l'ancienne station d'épuration. Hors de question de choisir cet endroit pour la construire, explique Blandine Davout, qui se rappelle de sa découverte surprise du projet.
On l'a appris tout à fait par hasard, en fait, par le survol d'un drone à proximité de notre propriété. Et nous sommes allés voir le pilote pour lui demander ce qui se passait. Et c'est lui qui nous a appris qu'il était en train de réaliser une étude pour l'implantation d'une antenne relais. Je dois avouer que j'étais vraiment en colère de l'apprendre de cette façon. Et après, on s'est un peu posé et on a essayé d'organiser les choses, déjà d'entrer en contact avec la mairie. On a aussi appris à ce moment-là qu'il y avait un second lieu possible pour implanter cette antenne, donc un lieu qui est excentré des habitations. En fait, nous ne sommes pas contre, évidemment, l'implantation de cette antenne, puisque tout le monde sait très bien qu'à Ménil, on a besoin de réseau. Il y a des endroits où on ne capte pas Donc, on a vraiment besoin d'antennes. Par contre, nous, vraiment, l'objectif, ça va être de dire pas à proximité des habitations. Il y a d'abord l'atteinte au paysage. Ménil est une petite cité magnifique à proximité de la Mayenne. Et là, l'étude qui est en cours, c'est à côté de la rivière et à une centaine de mètres des premières habitations. Nous, ce qui nous questionne, c'est l'atteinte au paysage, l'atteinte au chemin du halage, parce qu'on est nombreux à profiter de ce chemin. Moi, personnellement, je fais des photos, on est nombreux à faire des photos et il faut savoir que quand on surplombe Ménil, si on prend une photo des châteaux, eh bien, on aura l'antenne qui sera entre les deux châteaux et devant le clocher de l'église. J'ai pu rencontrer deux agents immobiliers qui m'ont parlé de dévaluation immobilière. Les habitations en proximité des antennes perdent 20% de leur valeur. Et puis, il y a un troisième point que l'on questionne et que l'on continue de questionner, mais auprès de scientifiques et d'experts, parce que nous commençons à avoir des contacts, c'est l'impact sur la santé. Nous, ce qui nous questionne aussi, c'est que c'est une zone inondable. Je crois que c'est l'endroit le plus bas à Ménil.
Une réunion d'information est organisée ce samedi au 6 chemin de la Verrerie à Ménil à 11h et à 15h en extérieur, précisent les organisatrices, pour s'informer et pourquoi pas intégrer le collectif. Les deux habitantes veulent se tenir prêtes à agir dès que cette fameuse étude sera terminée. Renseignements par mail à antennerelaisménil@laposte.net ou par téléphone au 06 09 91 04 20. On va parler de prochain spectacle de la troupe Théatrium qui aura lieu la semaine prochaine. Ce sera dans 3 minutes, juste après avoir écouté My Baby avec Uprising.
For more, oh, allow me in your dream. Oh, allow.
Uprising My Baby dans la JT du local sur l'autre radio. Et comme promis en tout début de cette émission, on va parler théâtre avec toi Andy et on va parler avec plus précisément de la troupe Théatrium qui se produira la semaine prochaine à Laval.
Et oui Marie, cette troupe de théâtre mayonnaise voulait valoriser les relations virtuelles après l'épisode du Covid et a choisi pour cela d'interpréter la pièce nommée Émile et Angèle Correspondance. Elle a été écrite par Françoise Pillet et Joël Da Silva il y a presque 20 ans maintenant. Cette pièce raconte une relation de correspondance entre deux enfants et également entre deux auteurs. Mais le metteur en scène de la troupe vous en parlera sûrement mieux que moi, en commençant bien sûr par son parcours dans le métier.
Alors moi je suis Bertrand Fournier, je suis metteur en scène et comédien de la compagnie Théatrium et co-directeur artistique avec Sandrine Monceau. Mon parcours, il est déjà jalonné de quelques années, et ça fait 25 ans à peu près que je fais ce métier. J'ai commencé par une école de théâtre, mais comme toute personne amateur, j'ai commencé aussi par faire du théâtre en atelier de façon amateur. Et puis après, j'ai fait une école sur Paris. Et puis avec Sandrine et d'autres comédiens, nous avons créé une compagnie en 98. Et puis le nouveau projet de compagnie, parce que nous avons arrêté cet ancien projet, est né depuis 2016. Et cette compagnie s'appelle le Théatrium. Et on est situé à Saint-Berthevin, où nous avons une résidence triennale.
Et donc, combien êtes-vous dans celle-ci ?
Alors, c'est très aléatoire, en fait, de parler de la compagnie, et entre autres, du nombre de personnes qui gravitent autour et qui constituent, je dirais, l'ADN de cette compagnie, parce qu'en fait, on est deux, qui est Sandrine Monceau et moi-même. On est les créateurs de cette compagnie et puis aussi les instigateurs de tous les projets, mais... il y a quand même beaucoup de collaborateurs qui travaillent avec nous, que sont des collaborateurs artistiques, mais aussi techniques.
Donc, quelle est l'origine de cette pièce, du coup ?
Alors, la pièce Émile et Angèle, correspondance, alors ça c'est très important de souligner le mot correspondance. En fait, la genèse de ce projet, c'est que, en fait, comme vous le savez tous, on sort du confinement. Et puis, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de raconter ? On a été enfermés pendant pas mal de temps. Et puis, notre relation aux autres, elle a été quand même très altérée. Donc, l'idée, c'était de se dire, voilà, comment on va réussir à parler aux plus jeunes ? Parce que notre travail artistique est orienté vers les écritures théâtrales à destination de la jeunesse, même si c'est pour du tout public. Mais c'est quand même... Une pièce et aussi notre travail en direction de la jeunesse. Et l'objectif là, c'était de se dire comment on va pouvoir valoriser les relations virtuelles. Et on a trouvé une pièce avec Sandrine qui s'appelle Émile et Angèle, correspondance de Françoise Pillet et Joël Da Silva. C'est deux auteurs en fait qui un jour décident de travailler ensemble. C'est deux auteurs de jeunes publics. Et puis ils se rencontrent et ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Et puis chacun repart dans son pays parce que Joël Da Silva est québécois, Françoise Pillet est parisienne, donc française. Et un jour, Joël Da Silva, au Québec, reçoit une petite lettre d'une petite Angèle, voilà, qui va un petit peu commencer cette correspondance épistolaire entre ces deux auteurs, mais aussi entre deux enfants. Et donc notre idée là, en sortant du confinement, c'était de se dire comment on va voilà, parler de ces moments un peu difficiles pour un peu comme une sorte d'exutoire et de se dire comment on peut valoriser nos relations à distance à travers l'écriture. Alors l'écriture, elle va prendre plusieurs formes dans ce spectacle. Elle va partir d'abord de la lettre, de la carte postale et puis on va aller vers le mail. Vers même le fax, un fax, l'appareil que de nombreux jeunes à qui on s'adresse ne connaissent pas cet appareil. L'idée, c'était de faire un croisement entre les souvenirs des adultes que nous sommes, qui ont connu la relation épistolaire avec un correspondant étranger ou pas, ou autre, pardon, et puis cette jeunesse qui correspond aussi à travers des messages courts, comme une carte postale, que sont les SMS. Voilà, c'est juste les modes de communication qui ont changé, mais la communication en tant que telle, elle existe toujours avec un nouveau vocabulaire, peut-être une nouvelle forme de typographie. En fait, c'est Alain Rey qui dit que en fait, toutes les relations aux mots et à la littérature sont évolutives, en fait. Et c'est pas parce qu'il y a quelques années, on valorisait l'écriture sur un papier que l'écriture en SMS, elle doit être complètement dévoyée. Elle existe, c'est un nouveau mode de communication et elle est aussi forte, en fait. Donc l'idée, c'était de trouver un peu l'intersection entre ce monde un peu plus passé qu'incarnent plutôt les parents et puis ce monde nouveau à travers ces messages courts et ce que les plus jeunes utilisent.
Et donc, pour vous, combien de temps ça prend de construire cette pièce ?
Alors, en fait, une pièce, normalement, de façon classique, nous produisons nos spectacles N-2, donc deux années précédentes, précédant la première. Cette année, ça a été un peu particulier. On sortait, comme je vous dis, du confinement. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, on a envie de créer, on a envie de proposer aussi une matière artistique très rapidement. Donc fin 2020, on décide avec Sandrine, à l'issue déjà d'un petit laboratoire qu'on avait expérimenté lors d'un festival qui s'appelle 53 Tours à Mayenne, la forme d'Émile et Angèle, très courte, de 10 minutes. Et on s'est aperçu face au public que ça pouvait avoir une résonance. Donc on a décidé de continuer. Et c'est-à-dire qu'un an après, on a sorti, en novembre 21, nous sortons Émile et Angèle correspondance version longue, avec toute une élaboration aussi sonore et graphique. Parce que dans ce spectacle, il n'y a pas que les lettres et puis la correspondance. Il y a aussi beaucoup un travail, un voyage sonore qu'a créé Denis Monjanel, avec qui on travaille aussi, qui est comédien sur ce spectacle, mais aussi musicien. Et il travaille aussi beaucoup, et on travaille beaucoup avec Jean-Philippe Borgogno, qui crée régulièrement le son et la musique de nos spectacles. Donc ils ont collaboré ensemble pour cette version plus longue. Et puis on a tout un travail graphique et vidéo qui est réalisé par Julien Guenou, qui met en scène en fait, je dirais, toute la fantasmagorie de ces deux enfants, ce qu'ils pensent, leur délire, à travers des images qui relèvent un petit peu de l'art graphique autour du dadaïsme.
Et donc, vous avez dit que vous n'êtes pas tout le temps le même nombre. Combien êtes-vous sur cette pièce, du coup ?
Alors, il y a deux acteurs, que sont Sandrine Monceau et Denis Monjanel. Moi, je suis metteur en scène. Et puis, il y a d'autres personnes. Alors ça, c'est plutôt ce qu'on appelle le personnel artistique. Mais pour nous, en fait, on ne distingue pas les deux, c'est-à-dire le personnel technique et le personnel artistique. Quand je parle de collaborateurs, je parle souvent de, bien sûr, Jean-Philippe Borgogno, de Julien Guenou, de Blandine Vieillot, qui est la scénographe de ce spectacle. Et puis tous les gens qui vont graviter, qui vont construire le décor. Donc il y a énormément de gens qui gravitent autour de ce spectacle-là, même une chargée de production et de diffusion qui est Satya Gréau, parce que c'est une équipe qui participe à la création de ce spectacle-là. Il n'y a pas une tête pensante au tout départ, et puis tout va être réalisé selon son bon vouloir. Moi, ce que je désire et ce que Sandrine désirons, ce que nous désirons au sein de cette compagnie, c'est qu'il y a un vrai travail collectif, même si les décisions nous appartiennent toujours finales. La réflexion en amont, elle est souvent collective.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de la pièce ?
Alors, Émile et Angèle, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, c'est une correspondance entre deux enfants, mais surtout aussi entre deux auteurs. Donc l'idée dans cette pièce, c'est qu'on soit toujours sur cette ligne de crête entre l'enfance et le monde adulte. C'est pour ça que ces deux enfants sont incarnés par deux adultes. Et l'idée, c'est qu'on passe de l'un à l'autre un petit peu. On ne sait plus très bien qui est qui à un moment donné, si c'est l'enfant qui parle ou si c'est l'adulte. L'idée, c'était vraiment de pouvoir valoriser cette correspondance entre ces deux enfants. Et donc, il va, au travers de cette correspondance, on va un peu traverser l'histoire de chacun dans son pays, ce qu'il vit au quotidien. C'est pour ça que le rapport au son et à la musique est très fort dans ce spectacle, parce qu'il nous emmène dans l'univers de chacun d'entre eux. Sur, à la fois historique aussi, parce que Émile parle aussi d'histoire du Québec à un moment donné, sur des moments un peu forts qui se sont passés entre les Français et les Québécois d'ailleurs. Et nous avons aussi une relation épistolaire qui est jalonnée bien de mensonges, parce que à travers ce spectacle-là, on voit aussi que l'enfance, c'est aussi le monde de l'imaginaire, du mensonge aussi. C'est comme ça qu'on se construit à travers des fantasmes. Et ces enfants-là, ils sont à la fois dans la vérité, dans la réalité. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir, en tant que spectateur, se placer en tant que détective et se dire, mais qui dit la vérité, en fait? Voilà. Et on est un peu entre ces deux options-là. C'est aussi toujours pareil, faire un écho un petit peu aux relations à distance qu'on peut avoir lorsqu'on est, on est sur Internet avec l'autre. Est-ce qu'on dit la vérité? Est-ce qu'on ne le dit pas? Voilà. Ça, en fait, à la fois, ce spectacle-là, il parle de façon très générale de l'enfance, mais aussi de façon très particulière dans ce que nous vivons actuellement sur les fake news, pourquoi pas. Sa destination d'un public assez large, parce que, comme je le disais, ça s'adresse à la fois à des enfants, à des plus jeunes, mais aussi aux adultes par rapport à leurs propres souvenirs et ce que nous avons pu vivre dans nos propres relations épistolaires passées.
Et donc, quand est-ce que vous vous produisez à Laval?
Alors, le spectacle aura lieu le 11 et 12 janvier 2022 au Théâtre de Laval. Donc, le 11, c'est plutôt des représentations scolaires. Et le 12, il y a une représentation scolaire, je crois, et puis une tout public. Voilà. Et la réservation se passe auprès du Théâtre de Laval.
Et si vous voulez voir cette pièce, mais que vous n'êtes pas disponible les 11 et 12 janvier, eh bien, ce n'est pas grave, car la troupe Théatrium continuera sa tournée jusqu'au mois d'avril, comme à Évron, Renazé, Mélay-du-Maine, puis du côté de la Loire-Atlantique. Vous pouvez retrouver toutes les dates et lieux précis sur le site de la troupe www.theatrium.com.
Merci beaucoup Andy pour cette interview. Et effectivement, plus d'infos donc à retrouver sur le site de la compagnie Théatrium, donc T bien la lettre, hein, atrium.com. On va faire une petite pause en musique, après du théâtre, donc de la musique, avec Gaël Faye, et on écoute Lundi méchant.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon? Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant, comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi méchant. Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi. Une semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on nous parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seul et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
Je vais pas me laisser démonter par bad vibes et morosité. Pas se contenter mais tenter sinon t'es inventé. Chauffer, chauffer, va t'entendre les pulsations des tympans. Chanter, chanter, c'est comme encore. Écoute, écoute la dimension.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant.
Lundi méchant, Gaël Faye, ce que vous venez d'entendre sur l'autre radio, dans la JT du local. Évidemment, on vous souhaite un jeudi pas méchant, un jeudi sympathique, avec aussi le retour de notre cycle de reportages pensée locale. Avec Jet FM aujourd'hui en Loire-Atlantique, qui nous emmène dans le parc naturel régional Loire-Estuaire-Grandlieu, labellisé depuis 10 ans, avec un objectif, valoriser le patrimoine, la biodiversité et développer l'économie locale.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Aujourd'hui, dans Pensée locale, on s'interroge sur la fonction d'un parc naturel régional, un PNR, dans la préservation de l'écosystème local. Pour ce faire, on s'est intéressé à un nouveau projet de PNR initié par la région Pays de la Loire en 2011. Ce PNR engloberait 39 communes autour de l'estuaire de la Loire jusqu'au lac de Grandlieu, soit une surface de 1262 km². On écoute Cécilia Nicolas, directrice de l'association Estuarium, qui porte ce projet.
Le premier objectif, c'est de relier les rives. En fait, on se rend compte que l'eau qui nous réunissait à un moment donné par rapport à des pratiques très, très axées sur le fleuve, tant sur le transport de marchandises, la pêche, etc., aujourd'hui, on a l'impression que ça nous divise plus qu'autre chose. Et ce phénomène qu'on rencontre sur les deux rives du fleuve, on rencontre également sur les rives du lac, avec des communes qui sont autour, qui ne se connaissent pas, qui ne travaillent pas ensemble. On a besoin d'être tous ensemble, réunis autour de la table, par rapport au changement climatique. Sur la préservation de l'environnement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parc va avoir une attention particulière à préserver son patrimoine. Parce que derrière, son objectif, c'est de le valoriser, pour générer du développement local. Alors, la terminologie est impropre, presque. On parle de parc, on a l'impression qu'on est entre des barrières. Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment quelque chose de très ouvert, avec un périmètre, bien sûr. Après, on parle de naturel, mais en fait, bien sûr, le patrimoine naturel est très important, mais pas que. Le patrimoine vraiment culturel, paysager, a toute son importance et fait partie des premières missions d'un parc, c'est de valoriser ce patrimoine. Et puis, régional. Certes, c'est la région qui doit porter le dossier à l'État, qui doit l'initier, mais en termes de gouvernance, finalement, c'est les collectivités locales et notamment les communes qui sont à la tête, généralement, de ce type de structure.
Pensée locale, un enjeu de société.
Le credo du PNR de l'estuaire de la Loire au lac de Grandlieu serait donc de soutenir le développement économique grâce à la préservation du patrimoine naturel et historique des communes. Pour savoir ce que les militants écologistes pensent du projet, nous sommes partis sur les bords de Loire à la rencontre de Guy Bourlet, président de la Ligue de protection des oiseaux de Loire-Atlantique et vice-président de la LPO des Pays de la Loire.
Nous, on a dit clairement que ce n'est pas du tout la bonne façon de faire. Ce n'est pas un instrument de protection, c'est un instrument de coordination et d'organisation des activités humaines. Là, c'est l'objectif du parc naturel régional. Un instrument de protection, c'est le statut réserve nationale, comme le lac de Grandlieu d'ailleurs. Et ça fonctionne très bien, la protection de l'environnement est très efficace. Donc ce qu'on souhaiterait, nous, c'est qu'une partie de l'estuaire soit mise en réserve sous le statut de réserve nationale, même si autour, il y a un parc naturel régional, ça ne pose aucun problème. Les deux peuvent cohabiter, mais il nous faut un noyau de protection important au milieu de l'estuaire. Et ça, ce n'est pas prévu. Les, promoteur du projet botte un peu en touche en disant « mais on a déjà une réserve puisque c'est celle de Grandlieu ». Le lac de Grandlieu est un site intéressant, mais ce n'est pas le cœur de l'estuaire. Donc ce qu'on voudrait, c'est une réserve nationale dans le cœur de l'estuaire. C'est une zone très intéressante. L'estuaire de la Loire, c'est la fin d'un fleuve absolument important au niveau national, mais c'est aussi celui qui a été le moins défiguré par l'activité humaine. L'estuaire de la Loire a une importance conséquente pour les oiseaux en migration. Les oiseaux du Nord qui viennent passer l'hiver chez nous, en particulier les canards ou les oies, et tous les oiseaux qui viennent du Sud, en particulier d'Afrique, et qui viennent se reproduire dans les grandes roselières de l'estuaire. Donc ça représente des dizaines et des centaines de milliers d'oiseaux qui soit empruntent la vallée de la Loire, soit tangentent par le littoral, mais qui se retrouvent à un moment ou à un autre autour de la Brière, autour de l'estuaire de la Loire et autour de Grandlieu.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Théo Bonnet, Thomas Glaziou et Clémence Pilly de Jet FM.
Reportage que vous pouvez réécouter sur notre site l'autreradio.fr et le prochain à écouter et à découvrir, ce sera jeudi prochain. On passe à notre feuilleton, vous le savez, depuis le début de cette semaine, on vous propose de découvrir le SNU, le Service National Universel dédié aux 15-17 ans. Et après avoir entendu la responsable du dispositif dans le département, un chef de centre et une jeune participante, Zoé, Andy, tu nous proposes d'écouter...
Le témoignage de sa maman, Nelly Courcel. Même si la motivation vient de l'adolescente, elle l'a encouragée à suivre ce dispositif. Avec le séjour de cohésion de 12 jours, la mission d'intérêt général et un éventuel engagement à long terme, Nelly Courcel se rappelle de la première fois où elle a entendu parler du SNU par le biais de sa fille Zoé.
Bah, c'est elle-même qui nous a parlé de ce projet, donc dont elle avait eu l'information par le lycée. On l'a encouragée, mais elle était déjà bien volontaire, donc on n'a plus que valider son envie.
Projet validé et début de la session en juin-juillet dernier, avant une mission d'intérêt général dans un camp pour les jeunes en Vendée. Quelques mois plus tard, sa maman tire un bilan de l'expérience.
Bah, je pense que c'est un très bon dispositif. Donc c'est un stage de cohésion, les rencontres avec les différents jeunes, prendre connaissance aussi des différents services de l'État puisqu'ils ont rencontré toute la partie militaire, justice, etc. Enfin, je saurais pas, Zoé vous en parlera mieux que moi. Et puis il y a toutes les valeurs républicaines. Enfin, je trouve que c'est un bon dispositif.
De retour du séjour de cohésion et au fil des semaines, Nelly Courcel a vu aussi l'impact de cette expérience chez sa fille.
Changement de comportement, elle est déjà bien mature pour son âge, elle est autonome, elle a pris ses décisions elle-même. Je trouve qu'elle continue dans ce sens-là, donc à poursuivre. Peut-être encore plus d'autonomie, une ouverture aussi vers son environnement, vers les associations, vers la vie dans sa commune. Aussi dans ses études, elle a rencontré des animateurs aussi issus de différents secteurs, des jeunes aussi de différents milieux. Donc voilà, que positif.
Avec désormais une question, recommanderait-elle le SNU à d'autres parents pour leurs enfants, en l'occurrence surtout à d'autres jeunes?
Oui, s'ils en ont envie, il faut y aller, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils ont tout à découvrir et c'est toujours le contact, l'ouverture d'esprit, l'ouverture vers le monde qui l'entoure.
Si ça vous tente, les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'au mois de mars pour la session estivale du SNU en Mayenne, en juin-juillet. Inscription sur snu.gouv.fr.
Merci beaucoup Andy pour ce quatrième épisode de notre feuilleton autour du SNU. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici puisque c'est la fin de notre émission L'Agité du Local. On te retrouvera donc, Andy, lundi, puisque demain, donc, c'est moi qui ai sur l'émission toute seule. Et oui, on va essayer de se débrouiller. En tout cas, restez avec nous, puisqu'à 19h, il y aura le Grand V de retour. À 21h, Transistor, ce sera avec Désirée Panetier, qui est chef de chœur d'In Paradisum et enseignante au sein du Conservatoire de Laval Agglomération. Nous, on se retrouve demain pour la dernière émission, la JT du local de la semaine. Je vous souhaite une très belle journée, donc, et à demain.